Il est 18h sur France Culture, le journal Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Dans le sud de l'Italie, Lampedusa, aux appels de détresse des ONG dont les navires humanitaires attendent des autorisations de débarquement, s'ajoute l'exaspération des élus et des structures d'accueil saturées, correspondance de Rome. Nous serons à Minsk, où des dizaines de milliers de manifestants demandent une fois de plus la démission du président biélorusse Alexandre Loukachenko, réélu à la faveur d'un scrutin qualifié de frauduleux par l'opposition. Dans l'actualité française, le Grenelle des professeurs annoncé ce dimanche par Jean-Michel Blanquer avec en exergue une revalorisation des salaires, sceptiques les syndicats dont le SNES. Réaction dans cette édition de sa secrétaire générale, Frédéric Rollet. Enfin, un haut gradé, mis en examen et écroué à la santé pour espionnage et trahison pour le compte de la Russie. Précision de Stéphane Père. Le président de la région de Sicile réclame au gouvernement une réunion de crise humanitaire et sanitaire quand le maire de la ville de Lampedusa appelle à la grève générale. Les élus en première ligne espèrent ainsi mettre en exergue l'inertie du gouvernement, eux qui n'ont pas les moyens d'accueillir et de prendre en charge les centaines de survivants à une redoutable traversée de la Méditerranée. Lampedusa n'y arrive plus et on ne peut plus payer l'indifférence de Bruxelles et le silence de Rome, lance le président de la région de Sicile. Les précisions dans Tonino Gallofaro.
Quelques 450 personnes débarquées cette nuit à Lampedusa après avoir été sauvées par les gardes-côtes italiens. Et il faut aussi ajouter 500 autres personnes arrivées sur une trentaine d'embarcations ces 24 dernières heures, selon un décompte du quotidien La Repubblica. Sans compter encore les centaines de personnes sauvées par le Louise Michel, le navire humanitaire de l'artiste de rue Banksy, et transféré sur le Sea-Watch 4 hier soir. Le compte est vite fait. La petite île, considérée comme porte d'entrée sur le vieux continent, est saturée. Selon le maire de Lampedusa, il y aurait donc désormais plus de 1500 personnes dans le centre d'accueil de l'île, un centre qui a en réalité une capacité d'un peu moins de 200 places, d'après la presse sicilienne. La localité donc à genoux, selon Salvatore Martello, qui a menacé la grève générale de toute l'île si des décisions immédiates ne sont pas prises. Le président de la Sicile est déjà en conflit ouvert avec Rome. En début de semaine, il avait signé un décret pour évacuer tous les migrants de l'île, menace en l'air, l'immigration étant une compétence exclusive de l'État. Mais depuis, pas de réponse du Premier ministre. Ce mois d'août, près de 3000 personnes sont débarquées en Italie, contre 1200 le même mois de l'an dernier.
Antonino Gallofaro à Rome. En Biélorussie, troisième dimanche de contestation et de mobilisation en campagne comme en ville contre la réélection d'Alexandre Loukachenko. Le 9 août dernier, le régime de l'autocrate a reconduit un volumineux dispositif de police consolidé par la troupe. Élise Delève de la rédaction internationale a joint notre correspondant à Minsk, Valentin Tipilinski, son récit.
Oui, en effet, on voit le dispositif important de la part des forces de l'ordre ainsi que l'armée a été déployée aujourd'hui. Je pense que cette 22e journée de la mobilisation provoque d'un côté la fatigue de la part de forces de l'ordre, mais aussi des manifestants qui se disent prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. La victoire pour eux, c'est d'avoir la nouvelle élection, l'élection libre et indépendante. Et aujourd'hui, vous savez, pour la première fois depuis 3 semaines, on entend des slogans un petit peu plus brutaux peut-être, qui aussi expliquent l'envie des gens de changement et la colère contre cette répression massive, contre les opposants politiques, mais aussi contre la presse ces derniers jours. Parce que ce que les manifestants me disent à chaque fois, chaque week-end, tous les jours qu'ils sortent, ils disent que voilà, après toute cette violence qu'on a vécue pendant plusieurs journées, 7000 personnes arrêtées, plusieurs dizaines, centaines de personnes torturées dans les centres de détention, les slogans, un des slogans qu'ils utilisent, nous avons pas oublié, nous pardonnerons pas. Donc là, il faut retenir cela et je pense que ça prouve encore une fois que les manifestants sont déterminés d'aller jusqu'au bout. Et encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est inédit. 3e semaine de la mobilisation, 22e journée de la mobilisation, prouve encore une fois que malgré les menaces du pouvoir d'arrêter tout le monde, d'arrêter ces manifestations pacifiques, les gens continuent, les gens sont unis. Et ils sont aujourd'hui dans la rue de Minsk, juste devant moi.
Valentin Tbilinski à Minsk. Les autorités jordaniennes libèrent ce dimanche le caricaturiste Emad Ajaj, arrêté mercredi soir, pour avoir commis un dessin sur l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Il comparaîtra non plus devant un tribunal militaire en charge des affaires de terrorisme, mais devant le procureur général d'Amman pour calomnie et diffamation. Emad Ajaj risque entre 6 mois et 2 ans de prison. La pandémie, avec les derniers relevés à notre disposition s'agissant du Moyen-Orient, 36 000 décès, 1 500 000 cas, la pandémie et ses répercussions sur l'un des plus importants pèlerinages du monde musulman. L'Iran chiite, qui envoie habituellement des dizaines de milliers de pèlerins à Kerbala, a interdit les processions traditionnelles, optant pour la diffusion des rites à la télévision, célébration donc virtuelle de l'Ashura, événement fondateur de l'islam chiite. Il s'agit en effet de commémorer le martyr en 680 de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet. L'Iran a verrouillé sa frontière et en Irak, bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
En Irak, célébration en petit comité.
L'Organisation mondiale de la santé avait alerté la semaine dernière. Le nombre de cas de Covid augmente beaucoup trop en Irak. Il ne doit pas y avoir de rassemblement à ce stade. Téhéran a donc interdit les processions traditionnelles, les cérémonies dans les lieux clos, les banquets. Et dans la pratique, il y a bien moins de monde que d'habitude. Mais des milliers de fidèles se sont tout de même rassemblés aujourd'hui dans la ville de Kerbala. Certains pratiquent l'autoflagellation en cercle serré malgré les directives sanitaires. Dans l'enclave où est enterré l'imam Hussein, l'homme au cœur des commémorations, les voyageurs enlèvent leurs masques et collent leur visage en larmes directement contre le grillage. Un comportement de dévotion religieuse, mais c'est aussi un geste politique, explique Pierre-Jean Luisard, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Irak.
Les appels à ne pas respecter les barrières sanitaires ont été le reflet du degré de défiance et donc c'est l'illustration de la division des chiites entre partisans d'un système qui fait faillite à travers le confessionnalisme politique et une base populaire qui est prête à défier les consignes sanitaires pour faire un appel désespéré à une figure tutélaire monte il y a plus de 1000 ans.
Et il y a 3 jours, toujours à Kerbala, des manifestants brandissaient des photos de ceux qu'ils nomment les martyrs d'octobre, en hommage aux protestataires tués lors de la crise politique de l'automne dernier.
Merci à vous, Diane Berger. En France, tout ne doit pas être écrasé par la crise sanitaire. Préconisation du ministre de l'Éducation nationale qui s'évertue de rassurer des enseignants déboussolés par des informations floues s'agissant du port du masque, des libertés à accorder aux élèves. C'est dans ce contexte qui fourmille d'inconnus que Jean-Michel Blanquer a annoncé un Grenelle des professeurs. Hakim Kasmi a sollicité la réaction de Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES.
Depuis le début du quinquennat, il annonce qu'on va discuter de la revalorisation des enseignants, qu'on va conjuguer des mesures immédiates et un plan de programmation pluriannuel. Là, maintenant, on est à moins de 2 ans de la fin du quinquennat. On n'a toujours pas commencé à travailler ce plan de programmation, dont on sait que c'est long. Donc, on a quand même le sentiment qu'on est plus dans les effets d'annonce que dans le réel. Les collègues attendent quelque chose de très précis, c'est dans l'immédiat des mesures de plan de prime d'équipement, hein, parce qu'on a vu le coût du matériel qui était maintenant indispensable quand on bascule en enseignement à distance. Et puis, pour le reste, ils veulent une vraie revalorisation et pas une revalorisation qui soit conditionnelle, parce que si on lit bien ce que dit le ministre, il associe la revalorisation financière du temps de travail augmenté à travers les formations pendant les vacances, à travers aussi l'idée de l'individualisation, du mérite, tout ce à quoi les enseignants répugnent parce que ça casse le travail en équipe. On ira dans les groupes de travail qui seront proposés, mais on a vraiment besoin d'avoir des actes si on veut donner un peu de crédibilité à cette question de la revalorisation.
Refermons cette édition avec cet officier haut gradé soupçonné d'avoir transmis des copies de documents militaires à la Russie depuis le centre de l'OTAN à Naples, en Italie, où il travaillait. Stéphane Perre, arrêté en août, il est mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère.
Le 22 juillet dernier, Florence Parly saisit le procureur de la République de Paris de cette affaire très embarrassante pour la France. La direction du renseignement militaire a la conviction qu'un haut gradé français serait une taupe de la Russie. L'homme aurait transmis des copies de documents depuis le centre militaire de l'OTAN à Naples, en Italie, où il officiait pour le compte de la France. L'affaire est particulièrement sensible car le centre où travaille cet officier est stratégique. Créé fin 2017 par l'Alliance Atlantique, il a pour mission de quadriller la zone Méditerranée, le Moyen-Orient, le Sahara, la Libye principalement. Une centaine de personnes, dont une majorité de militaires des pays alliés, y échangent en permanence des renseignements et des informations opérationnelles. La justice confie l'affaire à la DGSI et à son service de contre-espionnage. Courant août, alors qu'il prend des vacances en France et qu'il s'apprête à revenir en Italie, l'officier est interpellé par la DGSI et mis en examen pour trahison. Désormais détenu à la prison de la santé à Paris, il attend d'être à nouveau entendu par les enquêteurs et la justice.
Le temps de demain lundi dans les très grandes lignes, temps instable dans l'est, variable à l'ouest, ensoleillé vers la Grande Bleue. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto.